Bonsoir. Coopération internationale, la Chine décide de disponibiliser 20 milliards de dollars d'aide au développement en faveur de l'Afrique pour les trois prochaines années. C'est le résultat du dernier sommet Chine-Afrique organisé à Pékin du 19 au 20 juillet 2009. Comment analyser cette décision de la Chine? Quel pourrait en être l'impact sur le développement de l'Afrique? Nous recevons comme invité Tati Nsungani, analyste socio-économique. Monsieur Nsungani, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Michel Nsomoué, analyste économique et directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC. Monsieur Nsomoué, bonsoir. Michel Nsomoué, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Voilà. Professeur Kabengele Dibwe, professeur à l'université de Kinshasa, spécialiste en économie internationale, il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Merci déjà pour vos réactions qui sont nombreuses. Simplice Bitundu, la Chine gagne plus en Afrique que ce qu'elle octroie, soit 350 millions de dollars pour chaque pays en 3 ans, c'est rien. Maître Freddy de Kananga au Kassai Occidental, le problème n'est pas l'enveloppe disponibilisée par la Chine, mais plutôt la gestion des pays africains. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je le disais dans l'introduction, la Chine décide de disponibiliser 20 milliards de dollars d'aide au développement en faveur de l'Afrique pour les 3 prochaines années. Résultat du dernier sommet Chine-Afrique organisé à Pékin du 19 au 20 juillet 2012. Cette enveloppe est le double de celle que la Chine avait jusqu'ici disponibilisée pour l'Afrique. Maître Dismas Mabengu, vous êtes le vice-ministre en charge de la coopération internationale et régionale. Vous avez représenté la RDC. Que peut-on retenir du sommet Chine-Afrique?
La RDC retient de sa participation à cette conférence, primo, d'abord que la coopération entre la Chine et l'Afrique se fonde sur les principes gagnant-gagnant, sud-sud et égalitaire par rapport à d'autres partenaires traditionnels qui se présentent comme les plus forts et les pays du Sud ou les pays sous-développés se présentent comme les plus faibles, dont les conséquences, c'est que les plus forts l'emportent alors que les plus faibles continuent à demeurer dans la souffrance, dans le sous-développement. Des deux, que la Chine accorde une importance capitale au rapport de coopération avec l'Afrique autour de 5 secteurs clés sur le plan politique, sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'investissement, sur le plan de l'économie et sur le plan social. La Chine voudrait, n'est-ce pas, des parts de d'autres, mener son combat sur le plan de la coopération pour que les pays aujourd'hui qui sont encore sous-développés puissent émerger et atteindre les niveaux que lui revient aujourd'hui sur la scène internationale.
Avez-vous déjà une idée de la répartition de cette enveloppe de 20 milliards par pays, par exemple?
Le ministre des Affaires étrangères a pu, en donnant ses conclusions sur la conférence ministérielle, expliquer tout dépend de chaque pays sur les détails de faisabilité qu'il présentera à la Chine, n'est-ce pas? Et la Chine va apprécier, la Chine a précisé les domaines sur lesquels les études de faisabilité doivent porter, notamment sur les investissements et les infrastructures. Non seulement la Chine compte le faire pour un pays, elle veut le faire surtout au niveau des régions.
Voilà, Tati Nsungani, vous êtes analyste socio-économique. Selon certaines statistiques, la Chine a contribué à former 40 000 Africains. 2 000 entreprises chinoises étaient installées sur le continent fin 2011 et 29 instituts Confucius sont aujourd'hui présents dans une vingtaine de pays. Pour l'avenir, le chef de l'État chinois s'est engagé à envoyer 1 500 personnels médicaux sur le continent et à attribuer des bourses à 18 000 étudiants. Ce partenariat, Tati Nsungani, est-il l'un des meilleurs exemples de réussite de la coopération Sud-Sud?
Je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie également pour la question que vous me posez. Je voudrais, à l'intention de tous nos auditeurs, dire d'abord que l'aide au développement la plus connue est appelée aide publique au développement. C'est en fait l'effet d'État, d'ONG, de fondations, etc. Mais elle trouve son origine, il faut le rappeler quand même, dans le discours sur l'état de la nation qui a été prononcé le 20 janvier 1949 par Harry Truman. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est ce jour-là qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui l'aide au développement. Il faut aussi rappeler que l'aide au développement avait été conçue d'abord pour lutter contre le colonialisme, le communisme, excusez-moi, soviétique et notamment chinois aussi. Et donc aujourd'hui, l'aide publique au développement intervient généralement pour la réduction de la pauvreté, le financement de la croissance économique, la protection des biens publics, l'environnement, la stabilité politique ou encore pour lutter contre les flux migratoires. Mais il faut aussi rappeler que l'aide peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre la forme de financement, l'aide peut prendre aussi la forme de bourse d'études, l'aide peut prendre la forme de prêts, d'argent, des taux préférentiels, l'annulation de la dette, les formations et éducation comme je viens de le souligner, l'infrastructure, les routes, l'appui aux politiques d'État, les conseils techniques, etc., etc. Alors pour parler spécialement de la Chine, il faut dire que l'aide, le développement économique de la Chine qui a pris des proportions énormes, oblige la Chine à sécuriser ses approvisionnements, notamment en matières premières. Eh bien, il s'agit maintenant de mettre sur pied pour la Chine une aide ciblée sur les pays qui sont susceptibles de l'aider par rapport à son sous-sol. Alors, en 2011, la Chine était le troisième plus grand partenaire économique de l'Afrique après les États-Unis et la France. Aujourd'hui, comme tout le monde le sait, la Chine, les échanges entre l'Afrique et la Chine représentent 166 milliards de dollars en progression de 83%. Il faut aussi dire que les investissements chinois en Afrique représentent aujourd'hui 14,7 milliards de dollars en augmentation, encore une fois, de 60%. Et comme vous l'avez si bien dit lorsque vous avez entamé votre propos, c'est que l'aide a doublé. La Chine fait passer son aide de 10 à 20 milliards de dollars. Mais il faut dire que la Chine ne débloque pas des fonds, de l'argent sonnante, de la monnaie sonnante et trébuchante. La Chine bâtit des infrastructures, mais en fait, elle importe la main-d'œuvre. La Chine a aussi du matériel qu'elle importe. Ces projets, en réalité, on va peut-être en parler à la fin, les projets de la Chine sont, comme on le constate, ont comme objectif de, en quelque sorte, de gérer, hein, n'est-ce pas, les pays africains qui peuvent lui permettre d'avoir des débouchés par rapport à ses produits, mais également de créer des alliances objectifs et stratégiques, par exemple, lorsqu'il s'agit de faire des votes au niveau, par exemple, de Nations Unies.
Alors, Tatine Tsungani, ce partenariat Chine-Afrique ne fera-t-il pas ou ne fait-il pas déjà, permettez-moi l'expression, rougir les partenaires traditionnels, Banque mondiale, FMI?
Non, je pense que en termes d'aide publique au développement d'État à État, il faut retenir que les États-Unis restent quand même le premier contributeur dans le monde avec presque 22 milliards de dollars américains. Et si nous devons prendre un ensemble comme l'OCDE à elle seule débloque chaque année pratiquement 117 milliards de dollars, 90 milliards d'euros chaque année. Donc je ne pense pas que on peut ici dire que des pays ou des instances auraient à rougir. Et il faut également rappeler que beaucoup de pays, notamment ceux de l'Europe du Nord, interviennent en respectant les normes qui avaient été fixées par les Nations Unies, à savoir 0,7% du produit intérieur brut national en termes d'aide publique au développement, ce que beaucoup de pays ne respectent pas. Donc la Chine passe de la troisième à la deuxième place parce que, comme on le sait, la deuxième place en termes d'aide, en termes de pays, de l'APD, était occupée par la France en termes de pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France fait partie de l'OCDE et en tant que telle, donc, pèse 116 milliards, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il n'y aura pas à rougir. Je pense que la Chine va simplement apporter quelque chose de plus en tant que pays émergent. Vous savez que la part des pays émergents sur l'aide publique au développement, notamment pour les pays les moins avancés au monde, est en train d'augmenter, ce qui est tout à fait normal, étant donné que le produit intérieur brut de ces pays-là augmente. Il faudrait aussi signaler que les monarchies du Golfe, tout comme des pays comme la Russie, l'Inde, le Brésil, voient aussi dans le même temps leur part d'aide publique au développement augmenter, peut-être pas dans les mêmes proportions, mais augmenter de façon significative.
Michel Soumoué, je rappelle que vous êtes analyste économique et directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC. Le ministre chinois des Affaires étrangères, je vais citer un extrait de son discours, est allé même jusqu'à utiliser le style que voici, je le cite, « La Chine et les pays africains sont bons amis, bons partenaires et bons frères. Au-delà du protocolaire, cela est-il réel quand on sait que les États ne visent d'abord que leurs intérêts ?»
On voit le parcours que la Chine a effectué et a beaucoup de similitudes avec les pays africains. Et donc, il est normal que le ministre des Affaires étrangères chinois dise que l'Afrique est pour la Chine un frère, quelque part. Parce que la Chine a connu les mêmes humiliations que beaucoup de pays africains. La Chine a connu la pauvreté, la misère au plus haut niveau. Et donc, par rapport à cela, elle a beaucoup de points communs avec les pays africains que nous sommes. Mais pour revenir à l'aide publique au développement, j'aimerais la ressemblance que la Chine, je vais le faire entre la Chine et les pays africains, puisse inspirer également les pays africains, à savoir comment un pays qui a été si bon comme la Chine, à un moment donné, je dis de son histoire, comment un pays qui a connu autant d'humiliation est aujourd'hui à mesure d'apporter de l'aide à tout un continent, le continent africain. Comment un pays qui a connu autant de pauvreté est à mesure de devenir aujourd'hui le plus grand créancier vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, qui lui doivent des milliers de milliards de dollars? Comment la Chine est-elle devenue si puissante financièrement? Ce n'est pas par l'aide au développement qu'elle est arrivée. La Chine est arrivée là par l'effort humain, par le sacrifice et par le travail. Je pense qu'au-delà de l'aspect aide au développement, nos pays devraient regarder la Chine non pas comme une source de financement vers laquelle il faut tendre la main en permanence, mais comme un modèle de développement qu'il faut suivre pour qu'un jour nous comptions aussi parmi les bailleurs de fonds à travers le monde. Voilà ce que je peux dire à propos de cette fraternité entre la Chine et l'Afrique, à propos de cette bonne relation de coopération, de bons amis, de bonne amitié, etc. Mais il faudrait qu'au-delà, nous puissions nous inspirer du même exemple pour que demain nous soyons aussi un modèle pour les autres, que nous soyons des bailleurs de fonds pour le monde entier.
Michel Soumoya, Pasteur Kizito Bwanakweli de Bukavu Sud Kivu qui dit « L'assistance sino-africaine aurait un impact positif sur les Africains si les dirigeants ne seraient pas caractérisés par les détournements. L'inconvénient, c'est la paresse intellectuelle des dirigeants africains qui ne veulent plus fournir des efforts pour développer leur nation. »
C'est à peu près ce que je venais de dire quand je parle de copier le modèle chinois. C'est-à-dire nous inspirer du sens de l'effort, du sens du sacrifice, pour que nous puissions bâtir notre nation sur la sueur de nos fronts. C'est important que nous fassions plutôt que d'avoir la main tendue en permanence pour recevoir de l'aide, qui n'est en réalité pas une aide, parce que la Chine n'est pas un si bon samaritain pour venir offrir des cadeaux aux pays africains. La Chine, c'est la plus grosse épargne du monde, mais c'est une épargne en recherche des opportunités de rentabilité. Une épargne à la recherche des marchés plus producteurs, plus productifs, des marchés plus rentables. C'est ce que la Chine recherche à travers ses graines de placement. Elle ne donne pas des cadeaux. Elle a une contrepartie à recevoir. Ce n'est pas comme le ministre de la Coopération, le vice-ministre de la Coopération a dit, c'est le win-win, c'est vrai, c'est le gagnant-gagnant, mais c'est surtout aussi le donnant-donnant. Mais pour peu qu'on a reçu, on risque de donner un peu plus. Ça, c'est important à savoir aussi. Le détournement, oui, c'est le mal congolais permanent. Mais il faudrait que peut-être un jour la justice devrait s'occuper de choses de façon plus sérieuse et plus rigoureuse. Mais tout compte fait, le plus grand problème que nous avons face aux aides au développement, face à la coopération financière internationale, c'est notre capacité d'absorption des ressources financières. C'est pour ça que j'appuie tout à fait l'idée du Premier ministre qui a parlé des projets. C'est-à-dire les études de faisabilité. La Chine va mettre des dispositifs, va mettre à disposition des pays des moyens, c'est vrai. Mais s'il y a un projet précis qui doit absorber ces moyens, à ce moment-là, ça sombre dans le détournement. Et c'est là qu'un effort intellectuel doit être fait pour sortir de ce qu'il a appelé la paresse intellectuelle.
Alors, Michel Somoué, on le disait tantôt avec Tati Nsungani, depuis 3 ans, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique, avec un nouveau record atteint l'an dernier pour un volume d'échange de 166 milliards de dollars. L'Afrique, visiblement, n'a pas encore quitté l'époque de la cueillette.
Non, nous n'avons pas encore quitté l'époque de la cueillette. Nous sommes justement un système économique de cueillette, basé sur la cueillette. Et ça, c'est un grand mal. Et c'est pour ça, une fois de plus, nous devons regarder la Chine, comment elle s'est développée, comment elle a fabriqué. Et quand elle fait aujourd'hui un commerce si intensif avec l'Afrique, c'est vrai que pour ce qui concerne les exportations africaines vers la Chine, l'initiative vient de la Chine, pour ce qui concerne les importations africaines, c'est encore une fois la Chine qui a l'initiative, parce qu'elle sait fabriquer des produits adaptés au pouvoir d'achat des Africains. C'est comme ça que nous avons, quand vous regardez une paire de ketchup qui vient de la Chine, qui est vendue au Congo, elle coûte peut-être 50 fois moins cher que la même paire de chaussures fabriquée par la même Chine et vendue aux États-Unis d'Amérique.
Et elle est de moindre qualité.
C'est de moindre qualité, c'est un problème. Mais là, la Chine adapte, elle envoie aux Africains et aux Congolais en particulier de la camelote, elle envoie aux civilisations sérieuses, aux pays sérieux, de la marchandise de bonne valeur. Parce que si vous arrivez aux États-Unis d'Amérique, la plupart des choses que vous voyez sont fabriquées en Chine. Mais les appareils électroniques jusqu'au repas que l'on prend, la plupart, ça vient de la Chine. Donc la Chine a réussi à conquérir le monde par un grand effort de travail. Et c'est pour ça qu'encore une fois, Alain, j'insiste sur l'organisation économique. Pour sortir de l'économie de cueillette, nous devons savoir organiser une économie de marché. Et une économie de marché, c'est l'ensemble de 4 marchés qui doivent être structurés confortablement, efficacement et visiblement. Le marché du travail, en priorité. Le marché des biens et services, ensuite. Le marché des capitaux, il doit exister. Sinon, qu'est-ce que la Chine vient chercher avec ses 20 milliards de dollars en Afrique? C'est des rendements les plus élevés. Prenez un pays comme le Congo aujourd'hui. Regardez le taux d'intérêt lorsque vous emprunter de l'argent auprès des banques. C'est le plus cher du monde. C'est-à-dire que tous les capitaux étrangers devraient normalement chercher la route du Congo pour venir gagner. Là où on a investi un dollar, on en récolte 6, 7, etc. Nous sommes le marché, vous concluez un marché de dupes. Nous sommes à la disposition du monde. Nous nous lançons dans la mondialisation comme une proie. Au lieu d'être dans la mondialisation comme un agent de la mondialisation, nous sommes plutôt leur enjeu. Et c'est ainsi que dans ce cadre de coopération, il faudrait que nous ayons des dirigeants qui soient capables d'être lucides, de lire clairement les intentions des pays qui viennent vers nous avec des propositions d'aide au développement, comme c'est le cas de la Chine. Qu'est-ce que ces pays gagnent en réalité par rapport à ce que nous recevons? Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous dépouiller et de recevoir en réalité des miettes en vendant l'essentiel, en laissant l'essentiel aux autres? Quel effort intellectuel que nous devons pouvoir faire tous pour organiser l'économie, organiser le système économique, c'est-à-dire fonder d'abord nos efforts sur l'économie interne, sur un système économique national, sur le marché intérieur, et non pas cette économie où nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas, l'offre et la demande qui se boudent en permanence. Il faudrait que nous sortions de ce carcan pour bâtir une économie congolaise, une économie nationale viable avant d'affronter le monde.
Merci Michel Somoué. Tati Nsungani, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Sylvain Kabanga à Lubumbashi, la province du Katanga. C'est une bonne chose pour le développement de l'Afrique, mais c'est un néocolonialisme économique de l'Afrique par la Chine, qui dans ces entreprises sont réputées de mauvais engagements de ses travailleurs sous peine d'aide.
Réaction Tati Nsungani.
Eh bien, l'auditeur n'a fait qu'anticiper ma conclusion, parce que, comme je l'ai dit au début de mon propos, la Chine est en train de connaître un développement économique fulgurant. Et la Chine a besoin de sécuriser ses approvisionnements en matières premières. La Chine est en train de faire ce qu'on appelle une aide ciblée. Mais cette aide sera ciblée, elle ira en direction des pays qui vont lui permettre, n'est-ce pas, de pouvoir sécuriser ses approvisionnements, notamment des pays riches en sous-sol. Et j'aimerais ici tempérer un peu ce que j'ai considéré comme un excès d'euphorie de la part d'un membre du gouvernement, c'est que la Chine ne va pas débourser des devises, il n'y aura pas de transfert de fonds, si je puis dire, liquides. Donc cela ne va pas se faire comme cela. Et j'aimerais également souligner une chose que j'ai dit au début de mon propos, c'est que la stratégie de la Chine, c'est quoi? Elle repose essentiellement sur 4 piliers. Premièrement, l'aide publique de la Chine va s'adresser aux pays qui ne vont pas reconnaître Taïwan. Deuxièmement, la Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure, son aide va permettre, va sous-tendre une politique de contrôle des réservoirs des matières premières en Afrique, qui reste aujourd'hui le dernier précaré des pays en mesure de disposer de matières premières, notamment pétrolières. Et la troisième stratégie, c'est de créer des débouchés pour les produits chinois. Vous voyez bien que l'économie de consommation congolaise est envahie par la production chinoise. C'est vrai que c'est un fait mondial, mais en Afrique, ce fait est assez pernicieux et il est profond. Et les États africains ne font rien pour combattre ces importations massives en finançant des industries locales. Et la dernière... comme je l'ai dit, c'est nouer des alliances objectives et stratégiques dans le cadre de la diplomatie chinoise. Effectivement, les APD, comme on les appelle, ont un mal. Le premier mal, c'est d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le détournement. Ces aides sont détournées et servent à un enrichissement privé, personnel, et quand simplement, ils ne sont pas destinés à rembourser le service et la dette. Cette aide crée une forme de néocolonialisme réel. Et surtout, ce qui est plus grave, cette aide va créer une relation de dépendance. Alors que ces pays, notamment émergents, qui sont des puissances économiques, auraient dû encourager des industries locales à se créer. Mais cette aide, au contraire, va combattre les industries locales pour les neutraliser et envahir nos marchés par les produits chinois. Donc il sera, aujourd'hui il est difficile, il y a des études qui ont été menées, il est difficile d'évaluer l'impact de l'aide publique au développement sur les pays les moins avancés. D'ailleurs, cette aide, d'ailleurs comme vous l'aurez constaté, pourquoi cette aide s'adresse-t-elle essentiellement aux pays africains? L'aurait dû aussi aller vers l'Europe, alors que l'Europe a besoin de capitaux frais. Pour terminer, j'aimerais quand même souligner que il y a deux éminents économistes dans le monde. Je vais les citer. Le premier, c'est un Hongrois, Peter Thomas Bauer. Il dit qu'il est abusif d'appeler les APD flux de capitaux du nord vers le sud, alors qu'en réalité, ces flux entrave le développement des pays les moins avancés, notamment africains, et tendent à maintenir ces pays dans les mêmes conditions. Ça fait plus de 50 ans que les pays africains sont aidés, mais on continue à les aider et on continuera, tant qu'on va accepter cette aide, on continuera à être aidés. Et puis le deuxième, si vous me permettez, je vais terminer par là, c'est William Easterly. Il est professeur à l'université de New York. C'est un ancien cadre de la Banque mondiale. Il estime que la plus grande partie des aides qui sont apportées depuis 50 ans aux pays, notamment africains, ont été inefficaces. Donc moi, je pense qu'effectivement, au lieu d'accepter cette aide, on aurait pu promouvoir et protéger la propriété privée. On aurait pu, comme l'a fait Younous en Asie, promouvoir le microcrédit. On aurait pu faire les transferts de technologie, parce que les techniciens chinois qui viennent, est-ce qu'ils font le transfert de technologie? Je ne crois pas. Il faut plutôt parler de coopération au développement avec des projets élaborés par les Congolais. Et financé peut-être par la Chine et non pas nous voir imposer une aide chinoise.
Voilà, la réalisation me signale que nous n'arrivons toujours pas à atteindre le professeur Kabengele Dibwe, professeur à l'université de Kinshasa, spécialiste en économie internationale. Michel Somoué, il y a Lou Shei, chef du département Afrique au ministère chinois des Affaires étrangères, qui a déclaré qu'en 10 ans, les exportations africaines vers la Chine ont été multipliées par 16, passant de 5,6 milliards de dollars à 93,2 milliards de dollars. Au total, 60% des produits importés du continent sont aujourd'hui détaxés. Il faisait notamment allusion au vin sud-africain, mais certains observateurs indexent quand même la Chine. On sait qu'elle ne conditionne pas son aide, par exemple, par le respect des droits de l'homme ou la qualité de la démocratie.
Oui, c'est aussi le point faible de la Chine. Mais avant, il faut parler d'exportation, mais je crois que c'est tout à fait normal que les exportations africaines vers la Chine puissent augmenter, doubler, même quintupler un jour, je ne sais pas pourquoi pas, parce que nous savons que c'est la Chine elle-même qui vient produire en Afrique ce qu'elle doit exporter à son pays. C'est comme ça que vous avez dit dès le départ qu'il y a 2000 entreprises chinoises qui étaient installées en Afrique l'année dernière, en 2011, 2000 entreprises sont venues pour faire quoi? Les produits, elles exportent. C'est nous, les Congolais, les Africains, les entreprises africaines qui devrions produire et exporter vers la Chine. Mais nous constatons que la Chine qui vient, que c'est la Chine elle-même qui vient produire et exporter vers son pays ce qu'elle veut. En réalité, c'est comme tu dirais, la Chine vient puiser dans nos réservoirs, dans nos ressources naturelles, elle vient puiser et fait de l'Afrique effectivement le réservoir de ses matières premières. Et se sert elle-même comme elle veut, comme elle entend, derrière la coopération, derrière l'aide au développement. C'est ce qu'elle est en train de faire. Ben, écoutez, quand on dit que la Chine a un faible en matière de respect des droits de l'homme, ça c'est un secret de Poutinelle, tout le monde en parle, tout le monde le sait, que de ce côté-là, la Chine, pour voir son parcours politique, ce n'est pas un pays qui a été bâti sur les canons démocratiques du tout, mais c'est un pays qui s'organise autour d'un pouvoir central, même si aujourd'hui, de plus en plus, la Chine s'ouvre vers l'économie du marché. Mais essentiellement, au départ, elle a une nature, elle a une décision. Et donc, le respect des droits de l'homme ne devrait pas être, à mon humble avis, et là je ne condamne pas la Chine, je dis que le respect des droits de l'homme ne devrait pas être un critère de performance économique, qu'on puisse dire comme cela. Mais nous devons plutôt voir qu'est-ce qui favorise le bien commun. Quel est le système qui permet à un pays de produire ce qu'il faut pour nourrir suffisamment ses populations et avancer, plutôt que de s'accrocher à des référentiels qui sont dictés par ceux qui croient que la démocratie c'est leur affaire personnelle. C'est un peu ça que je pense.
Alors, quel pourrait être l'impact de cette aide sur le développement de l'Afrique? C'est la deuxième partie de cette émission. Michel Soumoué, je vous redonne la parole après cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu pour vous.
Tiano Katembo Kivono de Goma au Nord Kivu. Doubler, même tripler de l'aide pour l'Afrique sans une prise de conscience des Africains sur leurs problèmes particuliers ne servira à rien. La plupart des pays africains disposent de potentialités économiques qui peuvent être mises à valeur pour un développement durable sans même compter sur l'étranger. En plus, quels sont les critères qui sont pris en compte dans la sélection des pays qui vont bénéficier de cet argent? Je pense que les Africains ne pourront sentir les effets des subventions extérieures lorsque la corruption est dé- détournement, la négation et tant d'autres mots qui rendent les sociétés africaines zéro éradiquées.
Réaction Michel Soumoué, vous aviez déjà effleuré certains éléments de cette réaction.
Oui, la question essentielle, c'est de savoir si l'aide de la Chine à l'Afrique pourra produire un impact quelconque. Mais la réponse est très simple. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non, mais ça dépend de l'intelligence des dirigeants africains qui vont gérer la fameuse aide. Ça dépend de la façon dont ils vont gérer la fameuse aide. Ça dépend de la façon dont ils conçoivent la relation avec la Chine. Ça dépend de leur capacité de convertir les capitaux étrangers qui arrivent dans nos pays en ressources de vie pour leur nation, pour leur population. Prenons le cas où le Congo bénéficierait une fois de plus dans ce cadre de l'aide publique au développement, bénéficierait de grands travaux d'infrastructures menés par les Chinois. Si les dirigeants sont plus exigeants, plus regardants, nous pourrions évoluer, si on parle de win-win situation, comme ils le disent, nous pourrions voir de façon claire qu'est-ce que, en toute transparence, qu'est-ce que la Chine récolte de notre pays en contrepartie de tous les travaux qu'elle est en train d'effectuer en notre faveur. C'est important. Quelle est la facture finale de ce qu'elle fait comme par kilomètre de route, d'autoroute, etc., de pont, de rails, ce qu'elle peut faire? Quelle est la facture définitive? Est-ce que nous sommes efficaces dans notre choix? Est-ce que nous sommes efficients dans nos relations avec les partenaires comme la Chine? Si un kilomètre d'autoroute doit nous coûter 10 fois plus cher que les standards internationaux, alors nous sommes perdants. Donc l'impact sera plutôt négatif, même si on a l'impression que nous avons bâti des autoroutes. Quelle est la conséquence sur nos ressources naturelles, nos ressources qui devraient faire l'essentiel de notre richesse? Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous épuiser, de nous ruiner à travers des impressions, à travers des monuments plutôt juste impressionnants qui ne tiendront pas 15 ans, 20 ans plus tard par rapport aux exigences de nos conditions de vie? Ça, je pense que c'est des questions qui doivent être soulevées lorsque l'on s'ouvre vers les partenaires extérieurs de façon responsable pour que nous ne soyons pas naïfs en considérant que, je l'ai dit tout à l'heure au départ, l'aide au développement n'est pas synonyme forcément du développement. Et c'est un placement d'étrangers dans notre pays pour que cela rapporte à l'étranger plus que ça rapporte à ceux qui reçoivent de l'aide.
Alors, Michel Somoy, avant que je ne redonne la parole à Tati Nsongani, on l'a dit au cours de cette émission, plus de 2000 sociétés chinoises ont investi en Afrique et Shen Danyang, le porte-parole du ministère chinois du commerce, a déclaré qu'elles ont aidé à promouvoir la diversification économique et à créer des emplois. Mais dans plusieurs pays africains, l'on remet en cause les pratiques de certaines entreprises chinoises qui payent mal, qui ne respectent pas la législation de leur pays d'accueil. Visiblement, on a l'impression que beaucoup de pays africains ont du mal à se déterminer par rapport à ces paramètres.
Le problème, c'est que la Chine, il faut le dire, la Chine a fait face aujourd'hui à deux problèmes quand même graves. Le premier problème, c'est le problème de sa population par rapport à l'étendue de sa terre, des terres arables et autres. La Chine a opté pour l'exportation de ses populations vers d'autres pays. Et le deuxième problème, c'est qu'elle exporte pas simplement les populations. La Chine exporte son chômage aussi à travers le monde. Parce qu'on ne le dit pas assez. La Chine, aujourd'hui, est superpuissance économique, il faut le dire. Moi, je dirais même qu'elle est probablement la première puissance économique mondiale. Les États-Unis ne veulent pas entendre ce discours-là, mais c'est ça la vérité. Par rapport au regard des chiffres de PIB chinois aujourd'hui, plus de 8 000 milliards de dollars par rapport à celui affiché des Américains, 12 000 milliards de dollars, il faut vérifier ce chiffre-là. Mais en réalité, La Chine est aussi un pays qui héberge un taux de pauvreté suffisamment exagéré, il faut le dire. Parce qu'il y a plus de 10 millions de Chinois qui vivent dans des conditions d'esclavage. Et tous ces gens-là qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de revenus chez eux, qu'est-ce qu'on doit faire? On les exporte vers des pays comme l'Afrique, des pays d'Afrique notamment. Et c'est comme ça que vous ne devrez pas être surpris de trouver les mamans chinoises en train de vendre des beignets au marché Gambela, par exemple. C'est le cas, on l'a vu. Aujourd'hui, on est en train de parler de la loi sur le petit commerce. Les commerçants congolais se tiennent debout pour dire que ça ne va pas. Mais qui sont les plus grands pratiquants aujourd'hui du petit commerce au Congo? Ce sont des Chinois. Mais comment des gens comment quelqu'un peut partir de son pays pour venir vendre des beignets dans un pays africain? Voilà ce que nous appelons. On appelle tout ça les entreprises chinoises qui sont installées dans des pays d'Afrique.
Merci.
Et je dis, c'est une façon d'exporter à la fois le chômage chinois et à la fois l'excédent de la population par rapport à l'étendue du pays, par rapport à l'étendue des. De la superficie utile du pays.
Merci.
Et ça, nous devons aussi faire attention à tous ces phénomènes pour savoir, quand on a ces informations, savoir qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette fameuse aide au développement.
Merci Michel Somoy. Je rappelle que vous êtes analyste économique et directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC. Tati Nsongani, vous êtes analyste socio-économique. Prenons cette réaction qui nous vient de France pour vous.
Moïse Mpala, dans la région Rhône-Alpes, en France. Nous nous posons la question de savoir quelles sont les conditions de l'octroi de cette aide pour l'Afrique par la Chine. Mais c'est quand même bon. Pour quel objectif à atteindre avec cette aide? Deuxièmement, nous pensons que cette aide est la bienvenue pour l'Afrique, pourvu que ça soit affecté réellement au grand projet de développement durable. Je peux citer quelques projets. Par exemple, la diction d'eau vers le Sahara. Il y a la construction des usines de transformation de matières premières que l'Afrique regorge. Il y a, par exemple, aussi la construction, la transformation, le transport, ainsi que la commercialisation de l'énergie électrique en Afrique vraiment déficitaire.
Réaction Tati Nsongani.
Oui, merci. Je voudrais rappeler quand même à chacun de nous un adage qui est d'ailleurs un adage chinois. Apprends-moi à pêcher et je ne te demanderai plus de poisson. Vous savez que la main qui donne est toujours au-dessus. Nous devons cesser de nous faire aider. Et c'est un principe économique d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous voulez faire d'un pays une puissance, vous devez l'aider à devenir une puissance, mais pas constamment l'aider. Il y a des pays qui effectivement ont bénéficié d'aide et qui, à un moment donné, ont pris de l'envol. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, on nous montrait à la télévision des enfants chinois affamés. La Chine était un pays pauvre il n'y a pas longtemps, mais la Chine n'a pas bénéficié d'aide. Qu'est-ce que la Chine a fait? Elle s'est enfermée dans une espèce d'autarcie économique et elle a recherché à devenir une puissance économique.
Elle a travaillé, comme a dit
Michel. Elle a travaillé. La Chine, je suis désolé, la Chine a travaillé. Aujourd'hui, la Chine consomme plus de 70% de nos matières premières, notamment minières. Vous avez le cobalt, vous avez le cuivre, vous avez le manganèse, vous avez le coltan, la cassitérite, et j'en passe. Mais ça représente plus de 80 milliards de dollars. Mais qu'est-ce que, en contrepartie, la République démocratique du Congo gagne dans ce partenariat-là? C'est la question qu'il faut se poser. On nous parle de gagnant-gagnant, mais ce n'est pas vrai. La Chine est en train, chaque jour, de devenir plus puissante économiquement qu'hier, alors que la RDC est en train de s'appauvrir tous les jours plus qu'hier, pendant qu'il n'y a pas de contrepartie en termes de développement économique. En réalité, quand nous observons cette aide publique au développement que la Chine octroie à des pays africains, comme je l'ai dit, c'est une manière simplement de nous conditionner, de continuer à faire de nous son réservoir où elle vient puiser des matières premières qui lui permettent de devenir encore plus puissante aujourd'hui qu'hier.
Alors il faut relativiser l'impact sur le développement de l'Afrique et de la RDC.
Il faut relativiser cela. Pourquoi? Si nous prenons la hauteur de l'aide publique au développement il y a 20 ans, elle ne représentait quasiment rien. Aujourd'hui, la RDC a une aide au développement qui avoisine le milliard de dollars. Hier, ça représentait quelques millions de dollars, aujourd'hui un milliard. Mais comment la RDC ne se développe toujours pas? Il y a plein de projets dans ce pays. Il y a plein d'ONG dans ce pays. Nous sommes massivement aidés. Pourquoi ça ne marche pas? Pour la simple et bonne raison qu'on ne développe pas un pays avec l'aide publique au développement. Vous pouvez le vérifier dans le monde entier. Cessons de croire que l'aide chinoise va développer le pays. Au contraire, cette aide est une forme de néocolonialisme économique et financier qui va nous maintenir dans un état de pauvreté quasi permanente. Donc il faut, comme vous l'avez si bien dit, il faut relativiser parce que l'aide crée la dépendance. Moi, j'ai tendance à croire que par rapport à cette situation, ça devrait nous amener à réfléchir, à plus de réflexion. Pourquoi la Chine double cette aide? Est-ce que vous pensez que la Chine est une grande entreprise de philanthropie? Pensez-vous que la Chine a pitié du Congolais? Aujourd'hui, la nation chinoise est la nation la plus capitaliste au monde.
Comme a dit Michel Sommer, qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette aide?
Mais c'est un conditionnement, comme je l'ai dit. Donc ça veut dire que ce n'est pas une aide en réalité. C'est une manière de nous maintenir, c'est-à-dire que, je l'ai dit, je schématise, nous allons continuer à fournir des matières premières à la Chine, la Chine va continuer à devenir une puissance, la Chine va continuer à nous écraser économiquement, et la Chine va considérer la RDC comme étant un pays pour vendre ses produits, pour que ce soit un débouché économique. La Chine, en lui donnant cet argent, va empêcher aux industries congolaises locales de se développer pour que la RDC ne soit pas en mesure, en position de rivaliser sur le plan industriel, financier et économique avec la Chine. Donc nous ne nous voilons pas, et ça c'est une analyse économique, c'est une analyse simple. Même en termes de transfert de technologie, en termes de transfert de richesses, il a été démontré économiquement que l'aide concurrence les investissements privés directs internes ainsi que les investissements publics. Donc on ne peut pas considérer que c'est une bonne chose en soi pour la RDC et pour l'Afrique en général.
Prenons quelques réactions des auditeurs. Bernard Itunda de Walikale au Nord Kivu. Je pense qu'en matière d'aide, dons et prêts, notre priorité, c'est la restructuration et la réforme de notre armée. Bref, la réforme du système de sécurité. Papi Chibang de Kalemio Katanga. L'impact de cette aide sera visible dans les populations des autres pays africains. Quant à la RDC, un groupe de gens bénéficiera à hauteur de 80% à travers les commissions, détournements et ainsi de suite. Et 20% seulement restera pour nous, le petit peuple. Maître David Mambo de Bounia en province orientale, disponibiliser 20 milliards de dollars pour l'Afrique est un acte de solidarité internationale louable de la part de la Chine. Cependant, il faut craindre que la part réservée à l'État congolais ne soit détournée. Nous voulons cette fois-ci que ce soit une aide à impact visible. Pacifique Mango de Lubumbashi au Katanga, l'aide en Afrique et en particulier en RDC, c'est comme si l'on jette une graine de maïs dans le désert. Adoptons le système de Baraza, c'est-à-dire demander à la population à la base leurs besoins prioritaires ou peut-être seulement le développement de Kinshasa, Lubumbashi et non pas à Kabongo ou Fizi. Michel Soumoué, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Yakairi Matembera de Kalimio Katanga qui dit « L'initiative de la Chine est salutaire, mais je me demande si la révolution de la modernité est bien définie pour espérer en bénéficier. » On a parlé tout à l'heure des projets et d'une aide ciblée. Quelle est votre réaction?
Je ne peux pas trop parler de la révolution de la modernité. Je suis pas simple de trop bien comprendre les méandres de ce concept. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'on ne peut pas non plus repousser l'aide au développement, celle qui nous vient de la Chine, si effectivement elle nous parvient. On ne peut pas la repousser. Nous devons tout simplement développer une intelligence. Et en comprenant que la sorcellerie se transmet aussi sous couvert de la générosité, nous devons savoir convertir, comme je l'ai dit au départ, les intentions cachées des Chinois en aspiration profonde de notre population, conformer l'aide qui nous parviendra aux besoins et aux exigences de notre économie. Ça pourrait nous être à ce moment-là utile. Mais nous ne pouvons pas recevoir de l'aide de façon brute sans pouvoir la décortiquer et la réadapter, la tropicaliser, si vous voulez. Je sais que ce terme-là, la tropicaliser, et à l'adapter aux conditions de notre économie. Nous pouvons aussi en tirer un minimum de profit. Mais cela nous demande beaucoup de bonté de cœur et beaucoup d'ouverture de cœur.
Michel Soumoué, la qualité de votre ligne tend à se dégrader. En guise de conclusion, il y a plusieurs observateurs qui souhaiteraient que les États africains soient un peu plus transparents, en sait qu'ils doivent et qu'ils soient en mesure de dire combien ils reçoivent en termes d'aide et qu'est-ce qu'ils en ont fait et combien ils doivent rembourser brièvement en termes de conclusion.
La transparence est la grande vertu que nous pouvons rechercher dans chaque système de gestion du pouvoir public. C'est malheureusement aussi le plus grand absent dans la gestion de l'économie, comme des économies africaines en général et de l'économie congolaise en particulier. Parce que jusqu'à ce jour, je ne suis pas en mesure, en tant qu'économiste, de savoir combien ça nous coûte effectivement et tout ce que nous avons entrepris, nous avons reçu comme travaux de la part des Chinois, qui sont des très beaux travaux apparemment, mais combien cela nous coûte-t-il effectivement? Ça, c'est celui du boulevard comme le 30 juin. Refait, détruit, recommencé plusieurs fois avec un gaspillage énorme de sacs de ciment, des tonnes de ciment. Combien cela a-t-il coûté en définitive, je ne le sais pas. Et qu'est-ce que la Chine reçoit effectivement en contrepartie pour que nous puissions savoir si effectivement c'est du gagnant-gagnant.
Merci.
Si c'est du trop gagnant et moins gagnant.
Merci Michel Soumoué et Tatin Sungani. Conclusion.
En conclusion, j'aimerais dire que l'Afrique a des atouts. L'Afrique a des potentialités qui doivent servir à elle-même. Nous devons apprendre à compter d'abord sur nous-mêmes. La Chine est devenue ce qu'elle est parce qu'elle a compté sur sa force de travail. Et si elle est une puissance aujourd'hui, c'est aussi grâce à nous. Et il ne faudrait pas espérer que l'aide de la Chine développe l'Afrique, sinon ce serait illusoire.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Malheureusement, on n'a pas pu avoir le professeur Kabengele Dibwe, professeur à l'université de Kinshasa et spécialiste en économie internationale. La technique était assurée par Patrick Kiasongwa et Jean-Claude Nsiala, à l'équipe rédactionnelle Kéline Kouté et Samuel Kachak, sous la supervision de Julien Nyamouini. Présentation et coordination Alain Roux-Mouchinge. Merci de votre attention. Au revoir.